Bienvenue chez les protestants de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg. Voici la méditation de ce dimanche.
Jésus dit encore: un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné.
J'ai un père et une mère, puisqu'il n'y a pas de mère dans ce récit, comme ont remarqué les catéchumènes tout de suite. Où sont les femmes? Et puis, qui n'a pas aussi un frère ou une sœur, avec des relations toujours particulières? Nous avons donc suivi ce récit, péricope par péricope. Et après cette première péricope, nous leur avons demandé si le fils cadet avait eu raison de partir. La plupart ont dit oui, bien sûr. Il a le droit. Il faut qu'il vive sa vie. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il prenne distance, y compris dans la rencontre des difficultés. Il n'y aura pas toujours papa et maman. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas de maman. Tout dépend aussi de son âge. Le texte ne dit rien sur l'âge. Est-il assez mûr pour partir? Certains ont même dit peut-être que le fils cadet n'était pas assez heureux chez lui, il ne se sentait pas bien, il avait besoin de partir pour respirer, pour grandir. Et peut-être que ce mal-être est peut-être aussi le reflet de certains malaises que l'on vit soi-même. Quitter, c'est normal, ont écrit d'autres. D'ailleurs, ça fait rappel de ce texte de la Bible qui dit: c'est pourquoi l'être humain quittera son père et sa mère, s'attachera à l'autre, et les deux deviendront une seule vie. C'est normal de quitter, mais est-ce qu'il fallait qu'il vende tout l'héritage, les bijoux de famille? Ne pouvait-il pas partir en gardant ses richesses? Le fait qu'il ait besoin encore de l'héritage pour vivre, est-ce que ce n'est pas le signe qu'il est encore dépendant de ses parents? C'est comme s'il avait encore besoin de téter au sein de sa mère. Je m'en vais, mais j'ai encore besoin d'eux. Il quitte. Il prend un risque. Il est encore dépendant. Nous écoutons la suite de l'histoire. C'est les versets 13 à 20.
Dans un pays éloigné, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit: chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire: Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père.
Certains ont dit, en fait, il vit une seconde rupture. La première, c'est l'éloignement, la distance. Et puis la seconde, c'est cette dilapidation des biens. Comme s'il avait besoin de perdre cette richesse et cet héritage pour vraiment vivre la rupture. Alors, comment trouvez-vous la solution du fils qui décide de retourner chez son père ? Hein ? C'est un profiteur. C'est trop facile de rentrer chez papa et maman. Après tout, il a fait ses choix, maintenant il faut qu'il assume les conséquences. Le papa pompier, c'est trop facile. C'est à lui de se débrouiller, de retrouver une situation stable, de prendre sur soi, d'assumer. D'autres ont dit, mais après tout, il fait son mea culpa, il reconnaît son erreur. Il a tout perdu, sauf la confiance en son père. Ce qui est beaucoup. En fait, disait une, le fils cadet est courageux parce qu'il est prêt à affronter son père. Il est courageux parce que ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Il est plus simple de se masquer la face, de fuir, que d'analyser la situation et de reconnaître qu'à un moment donné, on a fait fausse route. Peut-être même que cette expérience a permis au fils cadet de grandir, de mûrir, de devenir un peu moins dépendant de la richesse matérielle de son père et de voir que l'essentiel se situe dans cette relation de confiance envers le père. Vivre un échec n'est pas un malheur lorsqu'on arrive à voir ces échecs et à reconstruire autrement. La prise de conscience n'est jamais évidente, mais elle est ici quasiment salutaire. Le fils cadet grandit, d'ailleurs le texte grec dit même qu'il ressuscite, pour soit affronter le Père, soit rencontrer le Père dans la confiance. Alors nous écoutons la suite de l'histoire.
Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et il l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils, qui est là, était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête.
Qu'aurait fait votre propre père à la place du père de l'histoire ? Mais honnêtement, hein ? La plupart répondent d'abord un savon. Du moins d'abord un accueil avec de la joie, mais aussi un peu d'éducatif, se fâcher, poser des questions, aider le fils à tirer les leçons. Et puis quand même la fête. Il paraît que la plupart des pères n'auraient pas été aussi indulgents et gentils que le père de l'histoire. D'abord des explications, une réflexion, et après, la fête. Voilà. Pour le père, il semble ici que le courage de revenir, la maturité du fils, sont plus importants que peut-être ce que nous, on a dans la tête, qui est le gaspillage des richesses. Peut-être le fils cadet a acquis une nouvelle richesse. Et puis le récit, à sa manière, propose une autre démarche, qui est celle du repas. Lorsqu'un événement important arrive, lorsque deux personnes se retrouvent après un éloignement important, lorsque le fait de se revoir est tellement chargé d'émotions, de questions, de joie, de bonheur, ou de conflits, de sentiments mêlés, parfois de culpabilité, alors bien souvent, le premier geste, c'est le repas qui va exprimer au mieux cette rencontre. Peut-être parce que le repas se prépare avec les mains, c'est quelque chose de concret, c'est un geste d'accueil qui canalise l'énergie et qui donne l'essentiel, qui est la nourriture pour le corps et le fait de le partager ensemble. Mangeons d'abord, parlons après. Partageons d'abord l'essentiel de ce qui nous fait vivre, on se retrouve. Après, on confrontera nos regards. Nourrissons-nous d'abord, partageons ce même besoin et nous serons alors mieux en mesure de partager sur nos vies si différentes. La joie avant la réflexion, la fête avant le travail, la grâce avant la loi, l'amour avant les exigences. Et c'est vrai, je le vois aussi dans mon expérience, bien souvent, on commence par un repas, un camp, une rencontre. Lorsqu'un enfant revient à la maison, on se met à table. Tout simplement. Et alors là, des choses essentielles se disent, se partagent, se construisent. Continuons l'histoire de ce récit.
Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle l'un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond : « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a fait tuer le gros veau, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père : « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais, jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. » Ton fils, qui est là, a mangé tout son argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père répond : « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
Peut-on avoir un frère ou une sœur sans être jaloux ? Peut-on avoir un frère ou une sœur sans que la fratrie pose problème ? Et les deux frères de cette histoire ne sont pas les premiers à vivre quelque chose d'un peu délicat. Souvenez-vous, les deux premiers frères de la Bible, Cain et Abel. Symboliquement, les deux premiers frères de l'humanité ont du mal, beaucoup de mal d'ailleurs. Et puis entre Jacob et Ésaü, entre David et son frère Absalom, entre les fils de Jacob aussi, ça ne va pas bien. Cain et Abel. Cain est l'aîné, Abel est le cadet. Caïn est désiré par sa mère, il est accueilli, il a une généalogie, il a une identité. Abel n'a pas de place dans la parole de la mère, il est vapeur, buée, il ne vaut pas grand-chose. Y a-t-il des frères sans différence ? L'un est fort en maths, l'autre ne fait que rêver. L'un est fort en sport, l'autre est maigrichon. L'un c'est le petit dernier, l'autre c'est le chouchou. L'un travaille bien à l'école, l'autre ne pense qu'à dessiner. L'un est le cadet qui gaspille tout, qui ne pense qu'à vivre, qu'à partir, qu'à voyager. L'autre, c'est l'aîné, travailleur fidèle, pratiquant toujours à la maison. Alors, les reproches du fils aîné me touchent. Me touchent aussi en tant que père. Parce que c'est vrai, lorsqu'un enfant est loin et qu'il revient, on se réjouit. Mais le quotidien, le fait de vivre au quotidien si proche, si simplement, ne devrait pas nous dispenser de rappeler ce bonheur quotidien si proche et si simple d'être ensemble. Le père, comme bien des pères et parfois comme des mères, a peut-être péché par absence d'expression de son amour, de tendresse. L'enfant va bien, il est là, il travaille, il grandit, il a des bonnes notes, mais pourquoi pas quand même se réjouir ? Peut-être a-t-il manqué de la tendresse, de la présence, de l'amour. Le fils aîné fonctionne un peu pareil. Il n'a pas, semble-t-il, un cœur, mais plutôt une machine à calculer. Il calcule ce qu'il a fait, son travail. Il compte ses années de service, son obéissance, ses bonnes œuvres. Alors le père va parler au fils aîné en espérant que son fils aîné puisse grandir de la même manière qu'il a espéré dans le fils cadet. Et puis, dans ce récit, que nous connaissons bien, c'est la parabole dite du fils prodigue, on a ce sentiment, parce que maintenant Jean-Philippe ne va plus lire, qu'il manque quelque chose. Le récit s'arrête là. Et comme bien souvent dans les histoires de Jésus, comme dans l'Évangile, on a envie que ça continue. Qu'est-ce qui se passe après ? Tout simplement, est-ce que les frères se rencontrent ? Et qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Alors, on a demandé aux catéchumènes d'imaginer la rencontre. Voilà. Alors, cette année, c'est un peu plus, tendre et confiant qu'il y a 6-7 ans. Si je mélange les deux résultats, ça commence mal, la rencontre entre les deux frères commence même physiquement. Avec beaucoup de reproches, l'aîné dit au cadet, tu gaspilles tout, tu t'en vas, et ensuite tu comptes sur papa-maman, c'est trop facile. Et le cadet dit à l'aîné, et toi ? Tu vis au crochet des parents, tu prends aucun risque. Moi je suis parti, j'ai pris des risques, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, j'ai reconnu. Peut-être que maintenant je suis plus grand que toi. Et l'aîné lui répond, c'est trop facile de vivre du one shot, des événements. C'est plus difficile de vivre au quotidien, chaque jour, d'être avec les autres. Et puis il y a quand même, à un moment donné, même si les paroles sont un peu dures, il y a quand même de la tendresse. Après tout, les mots dur exprime aussi une proximité et une certaine solidarité. Les grandes disputes sont entre les gens qui sont proches, qui se connaissent, qui se disent les choses. Alors nous, qui sommes-nous ? Sommes-nous le frère aîné ou le cadet ? Parfois l'un, parfois l'autre. Sommes-nous le père ou la mère ? Vous savez que Rembrandt, dans son tableau, je le rappelle, les deux mains du père, il y a une main d'homme et une main de femme, comme pour rappeler que peut-être derrière l'image du père, il y a aussi une mère. On est à la fois l'aîné et le cadet, le père et la mère, la veuve et le juge, le publicain et le pharisien, Marthe et Marie. Nous leur avons demandé de donner aussi un titre à ce récit autre que la parabole du fils prodigue. Alors certains ont écrit ou ont choisi le bon, le bête et le truand. Question d'héritage, gros sous et sentiments, partir, grandir, revenir. C'est beau, ça. L'amour est injuste et il nous aime beaucoup. Le pardon qui divise. Un père et ses fils. Le fils perdu et le frère retrouvé. Le débat autour de l'héritage. On grandit à tout âge. L'amour n'a pas de prix. Et puis, qu'est-ce qui manque dans ce récit ? Par la rencontre des deux frères. Et j'en ai pas parlé une seule fois d'ailleurs. On est dans un temple, on a lu la Bible, on prie Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'est pas dans le récit. Alors souvent, on identifie le Père avec Dieu. Et Jésus raconte cette histoire et les deux qui précèdent, la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme, de l'argent perdu, et ensuite la parabole, enfin le récit du fils perdu ou retrouvé. Et il s'adresse à des pharisiens, à des gens de loi, parce que ces gens voient d'un mal ou d'un œil difficile que Jésus soit avec celles et ceux que l'on considère comme des gens pas bien, des collecteurs d'impôts, puisque c'est la période. Et il leur raconte cette histoire, ces trois histoires, peut-être pour les faire avancer sur voir ce qu'est l'essentiel, qu'est-ce que l'on recherche, qu'est-ce que l'on retrouve, et puis aussi quel est notre regard sur Dieu. Là, les catéchumènes se sont aussi exprimés. Un Dieu qui préfère aimer que sanctionner. Un Dieu qui laisse ses enfants libres de faire leur choix sans les juger. Un Dieu émotif. Un Dieu qui est comme une mère. Un Dieu qui cherche à réconcilier. Et puis il y en a même une qui a combiné plusieurs choses. Un Dieu qui est à la fois père et mère. Et qui laisse ses enfants libres de prendre des risques, de grandir et garde toujours la confiance. Laissons cette histoire se poursuivre en nous, dans nos relations familiales, dans nos relations avec les gens que nous rencontrons et dans notre relation à Dieu. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu vous accompagne aujourd'hui et toujours.